Jean-Michel Arroyo, bonjour. Donc, j'ai le plaisir de vous rencontrer à l'occasion de la sortie aux éditions Dupuis, donc Air Libre, de votre dernier ouvrage Pigalle 1950, dont vous êtes responsable des dessins, et le scénarisé par Pierre Christin. On va refaire un petit peu le retour en arrière sur votre début. Donc, autodidacte, vous débutez en 2003 dans la BD avec Jacques Hiron. Et puis en 2009, ce sont les éditions Zephyr qui vous contactent pour reprendre des dessins de la série Air Blues. Et vous participez également à l'escadrille des têtes brûlées. Alors, première question bateau, comment passe-t-on du vélo, puisque vous avez quand même fait de la course cycliste pendant près de 8 ans, à l'aéronautique?
En fait, comme tous les gosses, en fait, je dessinais de jusqu'à l'âge de 12 ans, à peu près 12-13 ans. J'aimais ça. J'étais vraiment passionné par le dessin, la bande dessinée déjà en fait. Et puis effectivement, après j'ai arrêté pendant une dizaine d'années où j'ai la période pendant laquelle j'ai fait du cyclisme en compétition effectivement sur route. Oui. Et lorsque j'ai arrêté, j'avais 26 ans, un truc comme ça, 25-26 ans en fait. Et naturellement, le dessin était toujours là. Je l'avais pas pratiqué pendant 10 ans, mais la passion était toujours là. Je m'y suis remis.
C'est un peu comme le vélo, comme on dit.
Justement, pas vraiment en fait. Dans mon cas, en tout cas, pas vraiment, puisqu'en fait, je me suis retrouvé avec un dessin qui ressemblait à un gosse, à celui d'un gosse de CM2, quoi. Donc il a vraiment fallu que je travaille et que en plus, je suis autodidacte, hein, donc donc je me suis remis à lire, à essayer. Avec une espèce de d'approche analytique comme ça, de comprendre un peu comment faisaient mes auteurs favoris, quoi. Et j'ai appris comme ça sur le tas, vraiment, jusqu'à ce que je signe effectivement en 2004 en fait la série Le Paquebot des Sables avec Jacques Hiron, ouais, chez Joker, un éditeur belge justement, ouais, qui m'a permis de, je lui ai intégré d'ailleurs, qui m'a permis de démarrer comme ça sur le tas. Et j'ai appris mon métier en empilant les albums, quoi, c'est-à-dire en Je voyais que le niveau était faible et que ça n'allait pas, mais j'essayais au moins après chaque album de ne plus faire certaines erreurs, quoi.
Se remettre en question, je
crois. Ouais, oui, ça c'est sûr. Et du coup, j'en ai fait une sorte de leitmotiv, en fait, de ça, moi. Finalement, je suis quelqu'un qui doute assez de son travail. Je fais en sorte que ce soit pas destructeur, hein, mais en tout cas, oui, ça me permet toujours de me remettre en question et de toujours essayer de mieux faire, quoi. Et j'en ai fait vraiment mon credo de ça.
Alors, l'aéronautique, on va encore en reparler avec Bug Dany Classique. C'était donc en fin 2012, participer à cette aventure quand même assez fabuleuse, avec l'aval et la bénédiction des enfants des créateurs, finalement. Donc il y avait Michel Hubinon et Philippe Charlier. Mmh. Lourde responsabilité de devoir reprendre.
Alors oui, alors je m'étais, comme vous l'avez dit précédemment, en fait, je m'étais retrouvé, j'ai découvert l'aéronautique avec la série Air Blues, en fait, que j'ai reprise, contactée par les éditions Zephyr. Je me suis retrouvé sur cette période années 50, en fait, que j'aime beaucoup, qui me plaît vraiment, j'adore tout ce qui est vintage, en fait. Et donc, j'ai découvert, le DC-4, tous les jets, les premiers jets et tout ça, à ce moment-là, c'est-à-dire très tard. Hein. J'aimais les avions comme tout le monde, mais là je rentrais un peu plus dans le détail, à apprendre les modèles, à voir comment ça marche et tout ça.
Vous avez même piloté, non?
Piloté en l'air en fait. Mais oui, je fais un petit peu de voltige et tout ça. Ouais, je me suis vraiment pris de ça m'a beaucoup aidé d'ailleurs pour dessiner Bug Dany, les combats, tout ça. Ça permet de comprendre comment se comporte l'avion en l'air, les vitesses relatives, etc., les virages, etc. Et donc quand je suis arrivé sur Air Blues, ben oui, je suis tombé amoureux des graphismes en fait de cette époque. Là, et quand j'ai été détecté pour Bug Dany, en fait, et ben c'était génial parce qu'on reprenait le postulat de départ de la série classique, c'était de revenir justement sur la période Hubinon-Charlier, c'est-à-dire les 40 premiers albums, là. Mm-hmm. Avec cette période-là, ça va jusqu'aux années 70, quoi. Nous, on s'était arrêté un peu avant et on a recommencé en plus avec la Corée, quoi, c'est-à-dire avec le F-86, avec le Sabre, qui est un avion mythique. Hein,
Sabre sur la Corée, c'était votre premier en février 2014.
C'est ça, voilà. Donc reprendre une série, bon, j'étais fan du dessin de Victor Hubinon, donc ça c'était génial. Et je connaissais un petit peu les avions déjà, puisque avec les têtes brûlées et Air Blues, j'avais un petit peu fait mes classes, on va dire.
Voilà. Alors parmi les rencontres marquantes quand même, il y a celle de Pierre Christin. 83 ans et vous 48, ça va? Il n'y a pas de conflit de génération là?
Justement pas, quoi. Ça a matché. On peut dire que ça a matché directement tous les deux, quoi. Ouais, on s'est rencontrés. Il déjeunait avec notre ancien directeur éditorial de chez Dupuis, en fait, qui s'appelle José-Louis Boquet. Il déjeunait avec lui. Ils avaient ce projet. Je pense que c'est José-Louis qui a évoqué l'idée de faire un polar sur Paris, en fait, sur le quartier de Pigalle, Montmartre et tout ça. Et José-Louis a montré des dessins de Bug Dany, du coup, à Pierre, en fait, qui a bien aimé mon graphisme un peu singulier. Et quasiment après, on s'est contacté, on s'est vu, il est venu me voir chez moi à Béziers, quoi. C'était rigolo, hein. Moi, j'étais complètement abasourdi par ce truc-là, quoi. Travailler avec Pierre Christin, c'est quand même une légende de la BD, quoi.
C'était quoi? C'était plus l'envie de travailler ensemble que d'aborder un sujet sans vraiment savoir ce qu'il en
est. Je pense vraiment que c'est les deux. Et je pense que Pierre a bien aimé, je pense que ça a bien matché humainement, en fait. Et Pierre a bien aimé mon graphisme. On en parlait ce week-end, on était ensemble, il me disait qu'il avait senti qu'il y avait quelque chose vraiment de singulier chez moi.
C'est déjà le thème du bouquin, donc du petit gars d'Aubrac. Il l'avait déjà traité dans un de ses romans, non?
Lequel?
Parce que je ne saurais pas vous dire, mais il me semblait avoir vu.
C'est pas impossible parce que Pierre est très attaché à l'Aveyron, en fait. Ouais. Il a un pied à terre là-bas, et puis je sais qu'il a passé pas mal de temps dans la région, qu'il est très attaché à ça. Mais l'idée, c'était de raconter Paris, son Paris à lui, réminiscent, hein, fatalement, puisque lui a connu l'époque, en fait, pas moi. Donc, à travers ces réminiscences, en fait, moi, je me suis inventé mon Paris à moi, un peu fantasmé, en fait. Et le cocktail a bien marché, je trouve.
Quelles ont été vos sources? C'était des photos de Robert Doisneau, du cinéma de Gabin?
Alors, j'ai regardé, effectivement.
J'ai vu aussi que vous aviez été interpellé par les dessins d'Angelo Di Marco.
Alors ça, c'est Pierre, en fait, qui me l'a suggéré, en fait. Alors, Di Marco, je ne sais pas si vous connaissez, mais il illustrait les chroniques policières.
Détective.
En fait. Ouais, voilà, c'est ça. Et toujours avec des dessins pas croyables, juste avant le coup fatal, quoi. C'est vrai que ça me faisait marrer. Mais il avait une technique, surtout, qui était redoutable, quoi. La vie très, très réaliste, comme ça, on pouvait confondre avec des photos, quoi. Alors non, moi, en fait, bon, Pierre me l'a montré, je l'ai regardé, évidemment, j'ai admiré son travail, mais je voulais vraiment pas partir là-dessus. Je voulais rester avec mon dessin singulier. J'aime bien la sincérité. Je suis mon parcours, quoi. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais j'ai des influences, en fait, mais qui passent par mon filtre à moi, quand même. Oui.
Et ça, au niveau de la recherche pour s'imprégner de cette époque-là, ça vous a mis longtemps? Vous avez vu
On avait un film, Pierre et moi, qu'on aimait tous les deux, lors de discussions. C'était rigolo. Bon, au-delà des Becker, Touchez pas au Grisby, tout ça, là, c'est sûr. Mais on était bien d'accord sur le film Bob le Flambeur de Jean-Pierre Melville, qui se passe à Pigalle, hein, dans le quartier, où c'est peut-être pas son meilleur film, mais il y avait une ambiance, en fait, une atmosphère qui m'a immédiatement parlé, moi. C'était noir-blanc, déjà. C'était avec des acteurs, il y avait des gueules, il y avait tout ce qu'il fallait. Puis on voyait vraiment le quartier, il y avait des longueurs. Et le ton qu'il y avait dans ce film, en fait, m'a touché. Je m'en suis beaucoup inspiré pour l'album, ça, c'est vrai. J'ai pris le temps, en fait, de mettre Paris à la place d'un acteur, quoi. C'est-à-dire, je l'ai rendu aussi acteur du bouquin, quoi. Je voulais vraiment lui rendre hommage, quoi. Mais notre Paris à nous, c'est-à-dire celui de Pierre raconté d'après ses souvenirs, et moi, ce que j'avais fait de ses souvenirs. Je voulais pas partir dans quelque chose de trop documenté, trop photographique, en fait. Je voulais que ce soit un petit peu pas onirique, mais très ambiancé, quoi.
C'est vrai que finalement, le Pigalle, actuellement, il fait plus vraiment rêver. Donc, il fallait recréer cette ambiance.
Ouais, le quartier n'a plus rien à voir aujourd'hui, ça, c'est clair. Montmartre, oui, mais Pigalle, non. Et c'est vrai que je m'y suis baladé, évidemment, hein, pour essayer de capter des trucs, mais ça a vraiment changé, quoi. Bon, après, il y a le funiculaire. À partir du funiculaire, après, on...
C'était le premier titre, d'ailleurs.
C'est ça, le funiculaire, on descend toujours. Hein. Un peu long, mais qui résumait beaucoup plus, finalement, le bouquin que Pigalle 50, qui est un peu plus générique, mais peut-être un peu plus parlant pour le grand public.
Ouais. Le noir et blanc, c'était une évidence? Vous aviez déjà fait du noir et blanc avec la poire frisée, non?
Ouais, exactement, oui. Alors ça, oui, très inspiré. Je suis un inconditionnel de Tardy, en fait. Hein. Mm-hmm. Et c'est vrai que j'aime ces adaptations de Mallet quand il met des trames, des niveaux de gris comme ça. J'ai toujours été très sensible à ça. Et le lavis m'est revenu quand je faisais les Bugs d'Annie. Les deux derniers, il y avait toujours des tirages spéciaux en série limitée. Là. Et je faisais toujours des couvertures alternatives, en fait. Et les deux dernières, je les ai faites au lavis. Et je me suis dit, tiens donc, ça me plaît. Et je me suis dit, pour un polar, et ça s'est imposé immédiatement, en fait. Mmh. Avec Pierre, on a de suite été d'accord qu'il fallait partir sur ça, quoi. Donc j'ai fait quelques essais. Pierre m'a dit,
c'est ça,
on y va. Ouais.
Alors Pierre, il a quand même flirté un petit peu avec le cinéma, Valérian et la cité des mille planètes, Bunker, Palace Hotel.
Oui, avec Bilal.
Est-ce qu'il faut aimer le 7e art pour faire du 9e art, ou inévitablement quand on fait de la BD, on aime le cinéma?
Bon, ce sont deux arts séquentiels, hein, les deux narratifs. Ouais. Mais je pense que dans le cas de Pierre, oui, je pense qu'il faut aimer le cinéma parce qu'il a une manière complètement singulière, en fait, de raconter, je trouve, hein, en tout cas, hein, avec toujours plusieurs niveaux de lecture, avec toujours des sujets un peu sociologiques, politiques et tout ça. Il y a toujours plusieurs lectures d'un scénario de Pierre. Hein. Et il a un attachement à la psychologie des personnages que je retrouve pas dans toutes les bandes dessinées. Donc c'est vrai que c'est un auteur, moi, que j'aurais aimé rencontrer il y a 20 ans, quoi. Vraiment, hein.
Mais vous aussi, vous êtes un passionné de cinéma, non?
Oui, absolument, ouais. Ouais. Bon, je pense qu'on l'est un petit peu tous, hein, les auteurs de BD, hein. Parce mm-hmm. que j'ai des copains qui font du western, ils connaissent toute la filmographie de, bah oui, évidemment, hein. Donc je pense que c'est, bah oui, parce qu'en fait, c'est une source d'inspiration exceptionnelle, en fait. Mmh. Ouais.
Alors, Pigalle 1950, c'est en fait un polar intimiste. C'est le destin d'Antoine, fatalement symbolisé, comme vous dites, avec le funiculaire, qui monte à Paris et finalement, à l'inverse de vous, vous restez dans le sud.
Antoine, en fait, c'est un petit gars de l'Aubrac qui vit dans un bureau avec des gars. On sait pas d'ailleurs vraiment pourquoi il quitte cet Aubrac pour monter à Paris. Bon, il y avait toute la corporation aveyronnaise à Paris avec tous les débits de boissons, tout ça. Et en fait, c'est un garçon qui est très naïf à la base, hein. À part ses cochons et son Aubrac, on voit qu'il a pas vécu grand chose, en fait. Et il se retrouve propulsé dans ce milieu un peu interlope, hein, de Paris, la nuit, avec tous les malfrats, les putes et tout ça, quoi. Et il se retrouve, je pense, si on résume, c'est vraiment un destin un peu tragique, hein, c'est un garçon qui subit tout au long de l'album, finalement, même s'il comprend pas mal de choses au cours de l'histoire, on s'aperçoit qu'il se trouve toujours embringué dans des plans qui lui sont fatales, finalement, quoi. Mais ce qui me plaît chez lui, c'est son intégrité, c'est-à-dire que jusqu'au bout, il aurait pu déraper des centaines de fois, et jusqu'au bout, il reste intègre, en fait. Et ça m'a beaucoup touché. Déjà dans l'écriture, quand j'ai lu le manuscrit de Pierre, en fait, ça m'avait vraiment touché, ça. Ce destin, avec cette droiture, en fait, malgré tout, parce qu'il lui arrive quand même des choses. C'est un peu malgré lui, tout ça, quoi. Il est fautif de pas grand-chose, en fait. Hein.
Justement, vous parliez de scénario. Est-ce que vous avez un modus operandi? Est-ce que vous recevez le scénario et puis vous y attelez, ou au contraire, est-ce qu'on vous envoie certaines lignes et puis c'est vous qui soumettez
Alors Pierre,
pour inspirer le scénariste?
Alors, quand Pierre a démarré l'écriture, en fait, on a donc signé le projet avec José-Louis bien avant que je termine Bugs d'Annie. Et je me suis vite rendu compte que j'arrivais pas à gérer les deux projets en même temps, quoi. J'arrive pas à faire ça. J'ai besoin de m'immerger vraiment dans le sujet. C'était trop éloigné, les deux univers et la technique et tout ça. Et Pierre, en fait, avait commencé à écrire une vingtaine de pages, et j'ai fait quelques pages d'essai pendant les deux ans, là, mais c'était pas vraiment concluant. Et quand j'ai arrêté, je me suis immergé dedans. Et c'est là qu'on a vraiment trouvé le graphisme définitif, quoi. Ouais. Et Pierre, à ce moment-là, m'a livré tout le scénario. Sans indication de page ou de case. C'est vraiment à la ligne, comme ça, comme un manuscrit de film. Je l'ai lu comme un film, en fait, hein. J'avais l'impression vraiment je voyais les images en lisant le truc. Ce qui prouve que Pierre écrit en pensant en images, quoi. Ce qui permet...
Il y a une création cinématographique dans son écriture.
Absolument. Hein? Ce qui permet de laisser de la place au dessinateur quand il le faut, quand il faut des cases d'exposition, tout ça, il sait le faire. On voit qu'il n'y a rien à toucher, en fait, à son texte. Tout est là.
Ça devient finalement un storyboard, non?
Presque, ouais. En tout cas, moi, avec moi, en tout cas, ça a marché comme ça. C'est-à-dire, j'avais pas besoin qu'il y avait pas d'indication de caméra, de plongée, contre-plongée. Voilà, il y avait pas tout ça. Il y avait, grosso modo, qui est-ce qui intervient, où ça se passe et qu'est-ce qui se dit, quoi. Grosso modo, c'était ça. Hein, voilà. Et ça me suffisait parce que ça m'a donné une liberté absolue, quoi. Voilà. Et ça m'a permis de faire des choses que je n'avais pas pu faire avant, quoi. C'est-à-dire des doubles pages, des pleines pages, m'éclater en fait, graphiquement, quoi. Voilà.
Et finalement, apparemment, cette collaboration a été des plus réussies, puisque vous avez un nouveau projet ensemble, L'île des Riches.
Absolument, oui.
Quelques mots ?
Absolument.
Toujours aux éditions du Puits, d'ailleurs.
Oui, dans la collection Air Libre aussi, ouais. Hein? Cette fois-ci en couleur, par contre, ouais. Donc là, j'ai du mal un peu à lâcher le lavis, quoi. Je vous avoue que c'est une rupture assez brutale, quoi. Mais bon, ça va venir. Hein. Et L'île des Riches, alors L'île des Riches, c'est... je vais pas trop en dire, mais c'est grosso modo, c'est une arche, en fait, pour... en cas de catastrophe planétaire, en fait, ce sont une grappe de riches, d'ultra riches même, qui se sont payés une île comme ça, autarcique. Hein.
Don't look up, la suite.
C'est rigolo parce que c'est sorti après, c'est complètement ça. Hein. On n'est pas loin de ça. C'est dans cet esprit-là, en tout cas. C'est une farce dramatique, en fait. Et on va se rendre compte. On a l'impression que parce qu'on a de l'argent, parce qu'on est ultra riche, parce qu'on est au-dessus des lois, de tout, des gens, des politiques et tout ça, on est protégé. En fait, non. Le message, c'est un peu ça. Je vais pas en dire plus, mais c'est une critique sociale qui est implacable, quoi. Quel scénario.
Pierre Beaumont, on va le retrouver ?
Non. Pierre Beaumont, hélas, c'est dommage, hein, parce que je pense qu'il y avait vraiment du potentiel. J'aimais bien ce polar un peu fantastique. Alors, je sais pas. Moi, j'aimerais par la suite, après, beaucoup revenir sur du polar, parce que j'adore le genre, en fait. Mmh. J'aime bien parce qu'on peut justement traiter de tous les sujets, on peut passer du fantastique, du sociologique, on peut vraiment aborder plein de thèmes. Et j'aimerais surtout retrouver le lavis, quoi, parce que j'ai vraiment, j'ai pris un plaisir. Je pense que je pourrais encore le chercher dedans, creuser des trucs, quoi. Ouais. J'ai adoré cette technique, en fait. Mmh.
Ouais. Jean-Michel, un grand merci. On rappelle Pigalle 1950, ce qui vient de sortir aux éditions du Puits Air Libre.
Merci à vous.